un nombre important de grands personnages qui occupent les pages des livres d'histoire ont plutôt mal commencé dans la vie ou dans leur carrière. Soit ils connurent tout d'abord des défaites cinglantes sur le champ de bataille, soit ils subirent une déroute électorale, soit ils étaient maladifs, ou se trouvaient dans une autre situation fort difficile. De ce nombre est David, qui est cependant considéré comme le plus grand roi qu'Israël ait connu. Son histoire nous est racontée dans le premier livre de Samuel. Il est en fuite devant le roi Saül qui, la jalousie au ventre, a décidé de le tuer coûte que coûte. Je continue à lire dans les chapitres 21 et suivants. Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi, « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers? » David prit ces paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d'Achish, le roi de Gath. Versets 10 à 13. Gath était une des cinq principales villes des Philistins, chacune ayant son propre roi. Le fait que les hauts fonctionnaires de la région appellent David le roi du pays est très significatif. L'auteur indique par là que tous savaient que tôt ou tard, il deviendrait roi d'Israël. Je finis le chapitre. Alors David fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les battants des portes et laissait la bave couler sur sa barbe. Achish dit à ses familiers, « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici que vous m'ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » Verset 10 à 15. David fait semblant d'avoir perdu la raison afin d'éviter que les Philistins se vengent des défaites qu'il leur a infligées sur le champ de bataille. Dans le monde antique, on considérait les fous comme porteurs de mauvais augure et on les laissait tranquilles pour ne pas provoquer les dieux. Ce passage n'est pas à la gloire du futur grand roi. Sa panique devant Saül et sa fuite chez ses ennemis indiquent qu'il n'avait pas vraiment confiance en l'Éternel. C'étaient les circonstances et non sa foi qui dictaient sa conduite. À première vue, il s'est montré particulièrement imprudent de se réfugier dans la ville de Gath. Mais cela n'est pas aussi évident qu'il paraisse, car plus loin, le texte indique clairement que Achish, le roi philistin, avait beaucoup d'estime pour David sans qu'on sache exactement pourquoi. Cela peut expliquer la raison pour laquelle David s'est réfugié chez lui. Ensuite, les choses ont mal tourné à cause des hauts fonctionnaires qui ne partageaient pas le point de vue de leur maître. Et nous voici maintenant rendus au chapitre 22, qui marque le début de cette période d'environ 10 ans, pendant laquelle David se cache dans les cavernes et autres antres de la terre. Durant toutes ces années, il est traqué comme une bête sauvage et doit sans cesse fuir d'un endroit à un autre. Le texte sacré ne nous dit pas pourquoi Dieu a permis à cette situation de se prolonger aussi longtemps. Je commence à lire ce chapitre. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Verset 1. Cette grotte s'appelle aujourd'hui Eid Est Elma et se trouve à 30 km au sud-ouest de Jérusalem. Elle était d'accès difficile au flanc de la vallée des Térébintes où David avait battu Goliath. Donc, elle était facile à défendre. C'est alors qu'il s'est réfugié dans cette caverne que David va se comparer à une misérable puce et écrire des psaumes dans lesquels il décrit sa condition misérable et dans lesquels il invoque Dieu. Je cite quelques passages. Méditation de David. Prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. À pleine voix, je supplie l'Éternel et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, Ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite. Il n'y a plus personne, pas même un seul qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge, et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris, « Tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché au fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts, bien plus puissants que moi. Libère-moi, car je suis en prison, pour que je puisse te rendre mon hommage. Je suis entouré de lions, couché au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérées sont des lances et des flèches, et ils ont pour langue une épée. Ils ont préparé un filet et ils l'ont tendu sur ma route. Ils m'ont humilié. » Fin de citation. Je continue le texte. « Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes, et tous les mécontents se rallièrent à David, et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelque 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. » Verset 2. « Ceux qui étaient opprimés par le roi déchu cherchaient refuge auprès de David, car étant dans la même situation, il les comprenait. Saül, le roi d'Israël, était un despote à l'image de tous ceux que le monde a déjà connus. Il n'avait aucune révérence pour l'Éternel. Tueur froid, il était animé d'une grande violence et persécutait tous ceux qui se mettaient en travers de sa route. À cette époque, ceux qui avaient été obligés d'emprunter à cause des aléas de la vie n'avaient pas d'autre solution que de se vendre pour rembourser leurs créances. Il est vrai que la loi de Moïse prévoyait que leurs dettes seraient épongées lors de la prochaine fête du jubilé. Mais comme la loi n'était pas suivie, ces gens, délestés de tout, ne possédaient aucun recours, sinon devenir esclaves. Cette situation est décrite dans un passage de l'Évangile que je cite. « Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. » Fin de citation. On comprend donc aisément pourquoi ces gens se joignirent à David. Cela me fait penser que j'ai moi aussi une dette envers Dieu, car j'ai péché contre lui. C'est pourquoi l'Évangile nous donne la fameuse prière du Notre Père, dans laquelle nous lisons textuellement ces paroles. « Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons aussi à ceux qui sont nos débiteurs. » Fin de citation. En troisième lieu, tous les mécontents de leur sort se rallièrent à David. Il s'agit de ceux qui se sont blessés au barbelé de la vie et tous les exploités et autres victimes. Aujourd'hui encore, les injustices sont partout, monnaie courante, comme l'eau d'un ruisseau, un jour de pluie. C'est à cela que s'adressent les paroles de l'Évangile, où Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Fin de citation. De la même manière que David a accepté que ces 400 hommes en détresse, endettés ou mécontents de leur vie, se joignent à lui, le Seigneur aussi est prêt à recevoir, sans faire le moindre reproche, à tous les insatisfaits de la terre qui viennent à lui. Je continue le texte. Plus tard, David se rendit de là à Mispé de Moab et il dit au roi de Moab, « Permets-moi, je te prie, à mon père et à ma mère, de venir se réfugier chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab, et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa dans son refuge fortifié. Versets 3 et 4. Sachant sa famille en danger à cause de la folie furieuse du roi déchu, David demande exil auprès du roi de Moab. Celui-ci accepte car il était lui-même en guerre contre Saül, et parce que Ruth, l'arrière-grand-mère de David, était d'origine moabite. Mitzpé, dont on ignore la localisation, était probablement la ville d'origine de Ruth. Je continue le texte. Un jour, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans cette forteresse. Pars et rentre au pays de Juda. » David s'en alla et s'enfonça dans la forêt de Héret. Verset 5. C'est la première apparition du prophète qui jouera un rôle important durant le règne de David. Il assistera le roi dans les arrangements musicaux pour le sanctuaire de Dieu et écrira une histoire de son règne. Je continue en compressant. Saül apprit qu'on avait repéré David et ses hommes. Ils siégeaient à Gibea sur la colline, à l'ombre d'un tamaris, sa lance à la main. Tous ses familiers se tenaient autour de lui. Saül leur dit, « Écoutez bien, hommes de Benjamin, croyez-vous que le fils d'Isaïe donnera à chacun de vous des champs et des vignes? Est-ce qu'il fera de vous tous des chefs de milliers et de centaines? Alors, pourquoi avez-vous tous comploté contre moi et qu'aucun de vous ne se soucie de moi ?» Versets 6 à 8. Le roi déchu présente maintenant tous les traits d'un paranoïaque. Il fait un gros complexe de persécution. Saül étant de la tribu de Benjamin, il avait favorisé les hommes de sa propre tribu. Dans son discours, il sous-entend que si David devient roi, il suivra la même politique que lui envers les membres de sa tribu. Cela montre que Saül avait adopté la conduite des rois des peuples environnants. Aujourd'hui, ce népotisme est largement répandu sur plusieurs continents, ce qui donne lieu à des guerres ethniques régulières et particulièrement cruelles, comme chacun sait. En Afrique, les luttes intertribales font partie du paysage politique habituel. Je continue en compressant et finis ce chapitre. Doeg, l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saül, répondit « J'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob chez Ahimélec. Alors le roi envoya chercher le prêtre Ahimélec ainsi que tous les prêtres, membres de son groupe familial qui était à Nob. « Écoute bien, lui dit Saül, quand celui-ci fut devant lui. Pourquoi avez-vous comploté contre moi ? Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et me tende des pièges. » Ahimélec répondit au roi en disant, « Y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David ? De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle ? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale ? Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois ? Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi. Que le roi ne mette pas sur mon compte, ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. » Le roi dit, « Ahimélec, tu mourras, toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. » Puis il ordonna à ses gardes qui se tenaient près de lui, « Allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce que eux aussi ont soutenu David. » Mais les gardes refusèrent de porter la main sur les prêtres de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Doeg, « Vas-y, toi, exécute ces prêtres. » Doeg, l'Édomite, s'avança et ce fut lui qui tua les prêtres. Saül fit aussi massacrer par l'épée les autres habitants de Nob, la ville des prêtres. Un fils d'Ahimélec, nommé Abiathar, réussit cependant à s'échapper et il s'enfuit auprès de David. Il lui annonça que Saül avait fait tuer les prêtres de l'Éternel. David s'exclama, « Je m'étais bien douté, l'autre jour que Doeg, l'Édomite, qui était aussi à Nob, ne manquerait pas d'informer Saül de tout ce qui s'est passé. C'est donc moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de ton groupe familial. Maintenant, reste avec moi et ne crains rien. » Nous avons un ennemi commun, toi et moi, qui en veut à notre vie, mais auprès de moi tu seras en sécurité. Versets 9 à 21. Cet acte sanguinaire montre la cruauté et l'injustice de Saül, qui commet là un crime épouvantable. Parce qu'il est édomite, Doeg se moque bien des prêtres israélites et c'est avec le plus grand plaisir qu'il les élimine tous ainsi que leurs familles et leurs troupeaux. Cette exécution accomplit, en partie, la prédiction divine sur la famille du grand prêtre Élie. Ce dernier a encouru le jugement divin pour ne pas avoir corrigé ses fils qui, en tant que prêtres, commettaient des actions abominables dans le sanctuaire de l'Éternel. Ceci dit, c'est le mensonge de David qui a fait que les prêtres ne se sont pas méfiés de Saül et qu'ils ont été lâchement assassinés. L'amertume du roi déchu envers David gagnait petit à petit tout le royaume, comme le texte va le montrer. Un passage du Nouveau Testament me met en garde contre ce poison générateur de violence. Je le cite. « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Fin de citation. Le massacre perpétué par Saül a heureusement épargné Abiathar, un des fils du grand prêtre assassiné. Il a réussi à s'échapper et à emporter avec lui l'éphod, l'habit de cérémonie contenant l'Ourim et le Thummim qui servaient à consulter l'Éternel. Il deviendra le grand prêtre sous le règne de David et restera en fonction jusqu'à ce que Salomon le destitue à cause de sa participation à une rébellion contre lui. Nous voici arrivés au chapitre 23 qui continue l'histoire de David, toujours en fuite. Je commence à lire. On vint prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Keïla et qu'ils pillaient les céréales sur les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les hommes de David répondirent, « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Keïla nous battre contre les bataillons des Philistins ?» David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit, « Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » David marcha donc avec ses hommes sur Keïla et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Il faut dire quand Abiathar, fils d'Ahimelech, s'était enfui auprès de David à Keïla, il avait emporté avec lui l'éphod servant à consulter l'Éternel. Versets 1 à 6. Keïla est une ville de Juda proche des Philistins, à 25 km au sud-ouest de Bethléem et à 5 km de la grotte d'Adoulam. Malgré sa situation précaire, David est prêt, avec l'accord de l'Éternel, à défendre ses compatriotes contre les Philistins qui pillaient les réserves des Israélites. On comprend l'hésitation de ces hommes à partir en campagne contre une force supérieure, alors qu'ils doivent déjà être constamment sur le qui-vive. Ils en ont marre de toujours devoir se battre. Je continue le texte. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla. Alors il s'écria, « Dieu l'a livré en mon pouvoir, car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. » Versets 7 à 9. Le bon cœur de David, qui veut secourir les Israélites oppressés, le met en position difficile par rapport à Saül, qui voit une occasion en or d'en finir avec celui qu'il a déclaré son ennemi juré. En réalité, le roi est non seulement méchant, mais bête, et tout ce qu'il y a de plus ridicule en croyant que l'Éternel est de son côté. En fait, c'est tout le contraire. Dieu révèle à David qu'il n'est pas en sécurité dans la ville forteresse de Keïla, car les habitants, qu'il a pourtant délivrés des Philistins, sont prêts à trahir leur libérateur et à le livrer en pâture à Saül. On peut supposer qu'à cette nouvelle, David a dû avoir la mort dans l'âme, non seulement parce qu'il devait à nouveau s'enfuir, mais parce que les citadins lui rendaient le mal pour le bien. Ils étaient prêts à trahir celui qui les avait secourus, à vendre leur bienfaiteur comme un vulgaire criminel. Ça me fait penser à un proverbe de l'Ancien Testament qui dit « Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. » Fin de citation. Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous exhorte à faire ce qui est bien en toute occasion. Je cite le passage. « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. »